Bonjour, que Dieu bénisse la parole que nous allons méditer ce soir. Je vous invite à regarder dans 1 Corinthiens 2, versets 11 et 12. 1 Corinthiens 2, 11 et 12. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Jésus était debout dans le temple et il a crié : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et Jean continue en disant : Jésus disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 37 à 39. Le croyant donc reçoit l'esprit quand il vient à Jésus et qu'il boit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'eau de la vie qu'il boit, la parole de Dieu, celui qui croit en lui, qui devient disciple, eh bien il reçoit la vie, il reçoit l'esprit. La vie de Dieu, cette vie qu'il reçoit coule du disciple. Ça émane de lui, c'est quelque chose, c'est magnifique, c'est la vie qui vivifie ce qui est en contact avec le véritable disciple de Jésus. Dieu nous a donné, c'est-à-dire Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Mais ce n'est plus simplement un amour humain qui se manifeste, qui coule du sein des disciples de Jésus, c'est l'amour même de Dieu. Par l'Esprit qui vit en nous, Romains 5, 5. Et un disciple de Jésus-Christ, il ne vit pas selon la chair, il ne vit pas selon son psyché, il ne vit pas, mais il vit selon l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Cet Esprit, nous l'avons reçu lors de notre conversion, quand nous avons donc invoqué le nom de Jésus-Christ sur notre vie, que nous nous sommes repentis, que nous nous sommes fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Et il nous a fait alors naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire l'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu, c'est sa parole qui nous a fait naître, ensuite par son esprit, n'est-ce pas? La parole et l'esprit, c'est la même chose, mais c'est son esprit qui ça a pris vie en nous. Ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle de la parole. Nous sommes nés de nouveau. Et si nous sommes nés de nouveau, nous lui appartenons. L'apôtre Paul est clair, si quelqu'un n'est pas né de l'Esprit, s'il n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Alors il y a deux sortes de personnes, ceux en qui vit l'Esprit du monde et ceux en qui vit l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ce n'est pas Michel Janton qui l'invente, c'est Paul qui parle de l'esprit du monde. Il y a bel et bien un esprit du monde. Nous avons reçu le Saint-Esprit, l'esprit venant de Dieu. Parce que, pourquoi? Pour que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez, Dieu nous a donné beaucoup, Dieu nous a tout donné en son Fils. Mais sans l'Esprit Saint en nous, nous ne pouvons pas connaître ce qu'il nous a donné. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous connaissons ces choses. Il nous a donné le salut, il nous a donné sa vie, il a donné sa vie pour le monde entier. On trouve ça dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde. Mais si nous avons l'Esprit du monde en nous, alors nous ne pouvons pas savoir. Nous ne connaissons pas ce salut. Nous ne connaissons pas ce que Dieu a donné pourtant. Il a donné par sa grâce. 1 Corinthiens, ce qu'on vient de lire, 2, 11, 12. On ne peut pas le connaître, même qu'il l'a donné. C'est dans le temple de Jérusalem que Jésus, debout, avait crié « Venez à moi et recevez donc mon esprit ». Aujourd'hui, il se tient encore debout dans ses temples, c'est-à-dire en toute personne née de nouveau, mais née de nouveau et consacrée. Née de nouveau et consacrée. C'est-à-dire en toute personne née de nouveau qui se met à part pour Dieu. Le temple de Jérusalem, il n'était pas visitable par tous, eh bien, il en est de même pour les nouveaux temples que nous sommes. Et il y a en vous un endroit très saint où il n'y a que Dieu et vous. Personne ne peut y entrer, il n'y a que Dieu et vous. C'est là, de cet endroit sacré, secret, que sortent des fleuves d'eau vive qui coulent jusque dans la vie éternelle, qui se répandent aussi autour de vous et qui font que toutes ces bénédictions arrivent. C'est dans ce lieu sacré, secret, que vous allez à la rencontre de l'Esprit de Dieu tout seul, tout seul. Et afin que personne ne s'illusionne sur cela, Paul dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, qui est le temple, hein, et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Votre esprit, s'il est attaché à l'esprit de Dieu, ne forme en vérité qu'un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Vous voyez ? Votre esprit et l'esprit de Dieu ne forment qu'un seul esprit. Si vous êtes attaché à Dieu, si vous êtes consacré à Dieu, c'est par l'Esprit qui est en vous que vous vivez et non pas par l'observance des lois de Moïse. C'est-à-dire, vous vivez selon les lois de Dieu, selon les lois de Moïse, mais par l'Esprit qui vous en donne la capacité. Galates 3, 2. Les gens du monde essayent de vivre ces lois-là, mais ne peuvent pas y arriver parce qu'ils n'ont pas reçu, c'est-à-dire que Dieu leur a donné, Dieu leur a fait grâce, mais ils n'ont pas l'esprit pour voir et pour connaître ce qu'ils ont reçu. Donc, ils n'y arrivent pas. On va faire dimanche prochain, enfin, pas moi parce que je suis suisse, mais vous, les Français, là, vous allez aller voter. C'est très bien. Il y a des lois, voilà, c'est très bien. Qui peut mettre en pratique toutes ces lois ? On s'y efforce, mais regardez, regardez. Même les gens qui les font, ces lois, sont en procès, en garde à vue et compagnie. Comment reçoit-on les choses de Dieu ? Alors nous avons vu que sans l'Esprit en nous, nous ne connaissons pas les choses que Dieu donne. Or, comment donne-t-il ? Eh bien, il donne par la prédication de la foi. C'est par ces ministres qui enseignent selon l'esprit, pas selon la lettre, pas selon simplement une connaissance intellectuelle des choses. C'est par ces ministres qui enseignent selon l'esprit que vous recevez la connaissance qu'il y a un esprit saint. Et puis, toujours par la prédication de la foi, par l'enseignement qui conduit à croire, c'est là que vous recevez et connaissez les choses que Dieu donne. Voilà pourquoi les ministres, les ministères sont importants. Dieu a commencé à agir comme ça, et il continuera, et il agira toujours comme ça. Il n'a aucune raison de changer. Aucune raison de changer. Dieu agira comme ça jusqu'à ce qu'il dise qu'il change. Vous n'avez qu'à lire ça dans Galates 3, 2. Paul parle des préceptes dans l'Église de Jésus-Christ. Ces préceptes sont enseignés par les ministres, par les serviteurs de Dieu, et ceux qui rejettent ces préceptes, Paul dit qu'ils ne rejettent pas les ministres de Dieu, non, ceux qui rejettent ces préceptes rejettent Dieu lui-même, ce Dieu qui leur a pourtant donné son esprit. 1 Thessaloniciens 4, 8. Ah. Et Jean, complètement en accord avec Paul, déclare que celui qui garde les commandements de Dieu demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et il ajoute une phrase afin que chacun puisse s'examiner lui-même pour savoir s'il est vraiment dans la foi. Il dit, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean 3, 24. Est-ce qu'on peut encore s'illusionner ? Pouvons-nous croire que l'Esprit de Dieu est en nous alors qu'il n'y est pas ? Oui, parce qu'il y a des esprits d'aveuglement. Si une personne aime lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, si une personne aime ses frères et sœurs, pas d'un amour sentimental, mais d'un amour brûlant, d'un amour dévorant, alors là, si une personne aime ses frères et sœurs, alors il sait que l'Esprit Saint demeure en lui. 1 Jean 3, 23. On peut savoir si l'Esprit de Dieu demeure en nous ou pas. C'est le critère. Et Jean ajoute une chose, c'est ici son commandement, si nous croyons au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et que nous nous aimons les uns les autres. Aimer. Beaucoup de gens croient aimer, ils ressentent quelque chose, une attirance, une émotion, quelque chose de particulier, ils croient que c'est l'amour. Laissez-moi vous dire, si Jésus n'est pas dedans, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Notre Dieu, créateur de tout, est amour. Goûtez à Jésus et vous saurez ce que c'est l'amour. Venez à lui et vous recevrez. Vous savez, si je dis à un enfant, tiens, ça c'est du sel, et puis que je lui donne du sucre, ben il va goûter du sucre, il va penser que c'est du sel. Le monde a un esprit qui est à l'inverse de celui qui vit en nous. Cet esprit trompe les gens, on appelle ça l'esprit de l'apostasie. Cet esprit trompe les gens, il leur dit, ça c'est l'amour, mais en réalité ça n'en est pas. Ils sont sincères quand ils disent j'aime, je t'aime et tout ça, mais ils sont autant dans l'erreur que l'enfant à qui on dit que c'est du sel alors que c'est du sucre, ils sont autant dans l'erreur. On ne peut pas leur en vouloir, ils sont sincères. Ils n'ont que l'esprit du monde, ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit amour. Le reste, ce n'est pas de l'amour. Les gens pensent qu'ils vivent, ils ne vivent pas, ils existent. Ils ne vivent pas, ce n'est pas la vie c'est l'esprit. Jésus veut que nous sachions ceci. Le monde nous hait, du verbe détester, haïr, 1 Jean 3,13. Et pour savoir si nous sommes de Dieu, de la vérité, c'est là le test. Aimes-tu le nom de Jésus? Aimes-tu tes frères et sœurs? 1 Jean 3,13. Nous devons éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. D'abord, premièrement, notre propre esprit. Voir quel esprit m'anime. Les apôtres n'ont pas toujours été animés par l'esprit de Dieu. Hein? Jésus un jour a dit, mais de quel esprit vous êtes animé là? Et nous ne devons pas ajouter foi à tout esprit non plus. Il y a des esprits qui ressemblent à s'y tromper à l'Esprit Saint. Jean nous a donné une clé pour discerner quel esprit anime les gens et en particulier quel esprit anime ceux qui se disent prophètes. Et c'est un test infaillible. Écoutez bien, 1 Jean 4,2. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Alors, moi je connais des faux prophètes flagrants qui affirme publiquement « Jésus-Christ est venu en chair ». Ça semble bon, hein? Mais ça ne l'est pas. Il faut savoir ce qui se cache derrière cette proclamation « Jésus-Christ est venu en chair ». Demandez-leur, Jésus est venu en chair? D'où est-il venu? Il est bien venu de quelque part. Il est venu de quelque part. Jésus-Christ est Dieu de toute éternité et il est venu habiter parmi nous dans un corps de chair. Jésus n'est personne d'autre que Dieu notre Père céleste fait chair. Le seul et unique Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu fait chair. C'est cela que Jean nous donne pour pouvoir tester les esprits des prophètes et aussi les autres, des autres gens, et même de vous-même. Ceux qui vous déclarent que Jésus-Christ est la deuxième personne distincte de la Trinité, ils ont quelque chose en eux, c'est un feu étranger qui brûle en eux, c'est le feu qui a pris lors des conciles de l'Église vers 300 et quelques, qui ont forcé les gens, qui ont obligé les gens à croire dans cette doctrine inventée de toutes pièces de la Trinité et qui maintenant est passée comme monnaie courante. Tout le monde pense que c'est vrai. C'est faux. Il n'y a pas de deuxième personne distincte. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Et le bon nom de notre Dieu a été révélé en Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Ceux qui refusent de croire que Jésus est le Père venu en chair sont habités par l'esprit de l'apostasie catholique. Faites attention parce que c'est très subtil. Jean le dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il dit clairement qu'ils sont animés par l'esprit de l'Antichrist. C'est grave. Ils nient que le Fils qui nous a été donné est appelé Père éternel selon Ésaïe 9, 5. Est-ce que vous arrivez à dire Jésus-Christ est le Père éternel? Vous voyez, ce n'est pas simplement un point secondaire de la doctrine. Dans sa grâce, Dieu a toujours gardé un petit troupeau fidèle, un petit groupe fidèle, qui s'efforce de se conformer à la vie qui animait Jésus-Christ quand il était sur cette terre dans la condition mortelle, et des premiers chrétiens aussi. Mais l'apostasie est très vite venue et a très vite commencé son œuvre. Et de nos jours, c'est ceux qui vivent pieusement selon les Écritures qu'on regarde comme des hérétiques. Il y a besoin aujourd'hui de vrais prophètes qui annoncent la vérité. Pas cette sorte de personne qu'on va voir pour savoir si on va faire un voyage ou si on va se marier ou si on va avoir des enfants ou des trucs comme ça. Les prophètes qui annoncent la vérité. Pas une vérité mélangée, mais la vérité telle qu'elle est révélée. Proverbe 29, 18 dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » De nos jours, les alliances ont été rompues, les alliances éternelles ont été rompues. Comme au temps du prophète Ésaïe, Ésaïe 24, 5. Vous lirez le chapitre. Aucun de ceux qui se présentera dimanche aux élections n'a la crainte de Dieu. Nous vivons au milieu d'une génération qui tue les enfants. 230 000 avortements chaque année en France. Les enfants qui n'ont pas été tués, c'est-à-dire qui ont échappé à ce massacre, qui sont nés et qui ont atteint l'âge de la majorité maintenant, eh bien, ils vont voter pour des gens qui veulent mettre en place en France et qui veulent légaliser l'euthanasie. C'est un crime. Jésus l'a annoncé, le frère livrera son frère à la mort. Le père, son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir, Marc 13, 12. C'est pas que c'est nous, non, c'est pas des enfants qu'on tue, c'est des fœtus. Des fœtus. On s'en sert aujourd'hui pour rehausser le goût du Pepsi-Cola, par exemple, hein, des fœtus humains. Vous choque pas, ça vous choque pas. Mes frères et sœurs, la grâce de Dieu ne sert pas à effacer toutes ces horreurs. Il ne faut pas s'illusionner. Elle est donnée à ceux qui se repentent et changent de vie par la grâce, par la force que communique cette grâce, cette force habilitante. Les alliances ont été rompues, les familles brisées, le baptême a été corrompu. Jésus parle d'une maison qui était construite sur le sable, eh bien, toute notre société est construite comme ça. Et le vent va souffler, attention, le vent va souffler, et tout ça, ça va s'effondrer. Matthieu 7, 27. Pourquoi ça va si mal? Parce que l'heure de la grâce est sur le point de se terminer. Les religions chrétiennes, elles ont la Bible, la lumière, ils ont tous la Bible, hein, mais ils conduisent les gens dans les ténèbres. Alors la grâce, quelle grâce? Pour qui la grâce? Pour des gens au cœur dur qui veulent continuer à rompre les alliances? Pour qui la grâce? Pour celui et celle qui se repent. Oh, ne vous approchez pas de Dieu avec votre bouche. Approchez-vous de lui avec votre cœur. Les ténèbres couvrent la terre. Est-ce que vous, là, vous n'avez pas faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel? Nous en sommes au temps où dans l'Église, on ne supporte plus d'entendre la saine doctrine. On vous dit non, ça c'était pour autrefois. Vous savez pourquoi je suis toujours accepté en Afrique? Vous savez pourquoi? C'est uniquement à cause des miracles. Des prophètes, un en particulier m'a dit, mais on s'en fout de tes prédications, fais-nous des miracles, c'est tout ce qu'on veut. Ils ne veulent pas la parole de Dieu, ils ne veulent pas la saine doctrine, ils veulent rester dans leur doctrine d'apostasie, ils veulent rester là-dedans, avec des fables, pauvre, pauvre monde. Dimanche, il faut que vous alliez voter, mais avant, il vous faut prier. Il faut que nous prions, que nous élevions nos voix devant Dieu, afin que vraiment nous soyons bien inspirés, nous, en tant que peuple chrétien. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas que vous imaginiez que Dieu va mettre à la tête du pays une personne droite, merveilleuse. Il n'y en a pas un qui est né de nouveau dans toute cette équipe. Non. La France aura le président qu'elle méritait. Et nous, les chrétiens, on est choqués quand on lit les choses qui se passent en France. On est choqués, par exemple là. Et puis alors, quand on lit la Bible, et puis qu'on voit que ces peuples autrefois jetaient leurs enfants au dieu Moloch dans le feu. On dit, mais bande de sauvages et tout. Mais attendez. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là, ici, là, dans notre France? Notre génération fait de même, 230 000 avortements par an. Ça fait combien de meurtres en 30 ans, ça? Faites le calcul. Juste une petite chose toute simple, mais voilà, très terre à terre. Tous ces enfants-là qui ont été tués, ça fait à peu près, un peu plus, presque 7 millions en 30 ans. Eh bien, ils n'assureront pas votre retraite parce qu'ils n'auront jamais travaillé. Vous voyez d'où vient la ruine? Vous voyez comment ça se met en place? Dieu nous a donné son esprit, non pas l'esprit du monde, mais nous a donné son esprit afin que nous puissions connaître les choses de Dieu. Afin que nous sachions ce que Dieu nous a donné, dans quel temps nous sommes et comment nous devons agir. Nous sommes dans une ruine méritée. Aucun programme peut sauver cela. Aucun programme. Il n'y a que Dieu qui puisse. Mais pour que la France soit sauvée, il faut qu'elle se repente. Il faut que les chrétiens aillent pour témoigner, pour prêcher, pour créer des blogs sur Internet, pour envahir tout le Facebook et tout ça de choses de Jésus, et parler de Jésus et encore de Jésus. Votez pour Jésus. Mettez-le à la première place partout. Dans votre comportement, votre conversation, sur le net, ça va partout le net. Sans cela, après s'être glissée dans un égarement terrible, elle tombera finalement complètement. Et, parce que le temps de la grâce, mes frères et sœurs, c'est bientôt fini. Les anges ont déjà mis la trompette à leur bouche. Alors, de quel côté tu es, toi? Il faut que tu te ressaisisses, mon frère, ma sœur, et il faut que tu marches selon les ordonnances que Dieu nous a donné. Il faut vraiment que tu marches selon ces ordonnances-là. Dieu aujourd'hui a parlé à son peuple, il a rétabli des ordonnances. Il faut que tu te mettes au travail. Il faut que tu te mettes à faire ce que tu veux que tu fasses. N'attends pas que ce soit les autres, et surtout pas ce gouvernement qui va être mis en place bientôt là. Ne t'illusionne pas. Invoque le nom de Dieu sur ton pays. Amen.